Focus. Une immersion dans l'univers de la création.
Bonjour à tous, nous rencontrons aujourd'hui le cinéaste Arnaud Hilzer. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
On va tout de suite mettre les auditeurs au courant de ce que vous faites. Vous êtes en train de présenter un film à la Cinémathèque de Montagne qui s'appelle Rewilding Patagonia, qui a été tourné en Patagonie. Donc on va essayer de définir un peu le rewilding, c'est le ré-ensauvagement en français.
C'est ça.
Donc ça demande beaucoup de patience, puisque les personnes que vous avez été rencontrer là-bas, qui sont à l'origine du projet, ont acheté des terres à un niveau exceptionnel. Et elles ont carrément créé 18 parcs, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça. Alors, on peut déjà définir ce que c'est que le rewilding. Et avant, je peux peut-être même repréciser où est la Patagonie, parce qu'en fait, je me rends compte que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde.
C'est en Amérique du Sud.
Donc, c'est la pointe sud de l'Amérique du Sud. Et donc, c'est entre le Chili et l'Argentine.
Ouais.
Donc, c'est à cheval sur deux pays, il y a une frontière au milieu. Et donc, pour revenir au réensauvagement, donc en fait, le réensauvagement, c'est un ensemble d'actions qui consiste à recréer des processus naturels, à aider la nature, en fait, à retrouver une forme de naturalité et à faire en sorte que les processus naturels se réactivent dans les écosystèmes.
Oui, redémarrent, en fait.
Voilà. Donc, pour ça, il y a plein d'actions qui sont possibles, que ce soit le fait de retirer des espèces invasives, d'enlever... des barrières, des barbelés, de replanter des arbres, de poser des nichoirs. Et puis, peut-être que l'action la plus emblématique du rewilding, c'est la réintroduction d'espèces manquantes,
ouais.
D'espèces clés de voûte qui en fait modifient les écosystèmes de manière spectaculaire. On peut citer, je pense, comme exemple le plus marquant, c'est la réintroduction de 12 loups dans le parc national du Yellowstone, aux États-Unis. Les loups avaient disparu depuis un siècle environ. Et il y a eu un programme où ils sont allés chercher 12 loups au Canada pour les réintroduire au Yellowstone. Et en fait, ça a eu un effet qu'on appelle de cascade trophique, c'est-à-dire que le loup a perturbé les habitudes des grands herbivores qui n'avaient plus de prédateurs, finalement.
Et, oui.
Et là, le fait qu'il y ait le loup, d'une part, qui en mangeait un ou deux de temps en temps, a en fait... modifier leur comportement, les endroits où avant ils étaient tranquilles pour paître, et ben du coup là ils étaient absents, etc. Du coup les buissons, les herbes se sont mises à repousser, les insectes sont revenus, les castors sont revenus, et en fait par cet effet de cascade trophique, la réintroduction du loup a modifié le cours des rivières. Donc en fait c'est absolument fantastique.
Par contre il y a un aspect un petit peu apprenti sorcier. On n'est pas sûr de contrôler tout ce qui va se passer. Comme vous dites, les herbes repoussent, les rivières se déplacent, enfin, modifient leur lit. C'est pas évident, on peut atteindre aussi quelque chose qu'on ne contrôle plus. Ça pourrait être une cascade qui va trop vite.
Est-ce qu'il faut avoir peur de la nature ?
Non, mais de l'évolution trop rapide. Enfin, est-ce que les gens qui pratiquent le rewilding quand même se posent ces questions-là, de quelque chose qui leur échapperait, entre guillemets, quelques aspects ?
Je ne sais pas si on se pose ces questions dans ces termes-là. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je vais employer des mots qui ne sont peut-être pas forcément très doux, mais voilà, on abîme, on saccage tellement la nature qu'en fait, on est très, très loin,
ouais,
quand même d'écosystèmes complets, sains, etc. Et je pense que de toute façon, la nature, une fois qu'on la laisse tranquille, qu'elle est autonome et qu'elle s'autorégule, enfin, elle fait... elle vit sa vie, en fait. Enfin, je vois pas de quoi on pourrait avoir peur.
J'ai compris que les actions, c'était des leviers de protection de la biodiversité, des communautés et du climat.
Ouais.
Donc c'est immense, en fait, les leviers qu'on met en jeu quand on rewild.
Eh ben, les leviers sont énormes. Donc en effet, en fait, je vous ai parlé des actions qu'on peut mettre en place pour réensauvager, mais évidemment, en fait, le rewilding, c'est avant tout une affaire d'humain. C'est-à-dire que il s'agit, et c'est l'enjeu principal, de convaincre les communautés locales, de convaincre les humains finalement et de les intégrer dans les process,
ouais,
pour les faire accepter, en fait. Et c'est notamment l'angle qu'on a pris nous dans notre film Rewilding Patagonia, c'est de comprendre comment est-ce que là-bas, parce qu'on n'a pas encore parlé de leur projet là-bas, mais ils ont réussi à créer 18 parcs nationaux, 7 millions d'hectares de terres qui sont réensauvagés, préservés, qui sont devenus des parcs nationaux, donc des biens communs.
Ouais.
Et comment est-ce qu'ils ont fait pour intégrer les populations locales dans ces processus? Et notamment, ça passe aussi par une nouvelle donne économique qui crée de l'emploi. Ça passe par la création d'une nouvelle culture qui est centrée autour de la nature,
ouais.
avec l'édition de livres, avec le fait de faire des films, le fait de faire des événements, le fait de faire en fait connaître et aimer son écosystème voisin. Je prends un exemple tout bête, mais par exemple, on a assisté, et c'est dans le film, à la réintroduction de Nyandou, c'est des petites autruches à l'état sauvage dans une vallée. Et ben, ils invitent en fait les voisins, ils invitent les écoles. On était peut-être 100, 150 à regarder ça. Et c'est génial. En France, je peux faire de généralité, mais la plupart du temps, c'est plutôt une affaire d'experts. C'est plutôt top secret, ou en tout cas, on n'en fait pas des caisses. Et on l'a su un peu plus tard qu'en effet, il y a eu la réintroduction de certains animaux, etc. Là-bas, c'est venez participer en fait. Rapprochez-vous des écosystèmes, des parcs qu'on est en train de créer. Donc, il s'agit en fait d'inclure les communautés humaines dans les écosystèmes. C'est hyper important. Ouais.
Oui, intégrer les gens locaux, ça c'est extraordinaire en fait.
Ouais.
Enfin, c'est la base, mais c'est difficile à réaliser. Ouais. Comme vous dites, ça marcherait difficilement en France, ouais, de les intégrer aussi
vite.
Je sais
pas, non, je pense pas que ça serait. Enfin, c'est probablement difficile, mais c'est difficile partout en fait. Là-bas aussi, c'est difficile. Enfin, je veux dire, quand les Tomkins ont commencé, donc si vous voulez, on peut un peu enchaîner sur partir sur leur histoire, mais c'était il y a 30 ans, quand Douglas Tomkins a acheté les premières propriétés qui étaient à vendre dans la région. Donc en fait, il a fait de l'acquisition foncière sur des propriétés qui faisaient 300 000 hectares. Donc évidemment, c'est des surfaces qu'en Europe, on a du mal à imaginer parce que c'est plus nos référentiels. Moi, j'ai tendance à dire qu'à chaque fois qu'il y a une dimension, là-bas, on peut rajouter 1000. Donc 300 000, ici, on rachèterait peut-être 300. Quoi.
Ouais.
Mais là-bas, donc, il achetait des grandes propriétés. Et en fait, il y a eu tout un tas de fantasmes, d'inquiétudes, de peurs en fait, qui ont été générés en fait par cet Américain qui venait acheter des terres. Les gens doutaient de sa sincérité. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Est-ce qu'il va forer du pétrole? Est-ce qu'il va faire venir
de notre côté troupeaux? Il avait un background parce qu'il était le créateur de North Face.
Donc, et de l'esprit, ouais. Ouais.
Ouais. Donc il était plutôt axé vers l'environnement, pour l'environnement, quoi.
Bah, c'était un entrepreneur qui a très bien réussi dans la vie. C'était un amoureux de l'outdoor, de la montagne. C'était un grand alpiniste.
C'est ça. Ouais.
Il était skieur olympique américain. Donc il faisait partie aussi de l'équipe olympique US. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il allait au Chili, parce qu'en fait, quand c'était l'été aux US, ils allaient s'entraîner au Chili. Donc lui, il a connu ces paysages à ce moment-là. Et il s'est mis à un peu avant 50 ans, en fait, il a dit « Ok, j'arrête le business ». Il a revendu, à l'époque, il était actionnaire chez Esprit, avec sa femme. Il a revendu toutes ses parts et il a eu une fortune sur son compte en banque, évaluée à environ 400 millions de dollars. Et en fait, avec cet argent, moi je trouve ça fantastique avec le recul. Maintenant, on peut le dire parce que ça fait 30 ans et que voilà, les faits sont là. En fait, ils ont tout dépensé pour ces projets. Et c'est...
Oui, il n'a pas fait de demi-mesure.
Il n'a pas placé son argent pour faire fructifier, puis avec les dividendes, il a fait des petites actions. Non, ils ont engagé le reste de leur vie, de leur fortune, de leur énergie dans ces projets. Donc lui, avec sa nouvelle femme, Christine, qui est toujours à la tête de ces projets. Et donc, leur process, c'est acquisition foncière, donc propriété privée. Je deviens propriétaire d'une terre. Ils mettent en place un certain nombre d'actions donc en fonction de ce qu'ils achètent et des besoins de l'écosystème qu'ils achètent. Est-ce que c'est de la conservation de forêts menacées? Est-ce qu'il y a plus de rewilding? Est-ce que, en fonction des besoins de chaque propriété, ils mettent en place des actions, ils génèrent de l'emploi, donc ils créent des infrastructures, ils ouvrent aussi, c'est hyper important, ils ouvrent ces terres qui étaient des terres privées, donc inaccessibles aux communautés locales. Bah, tout d'un coup, elles deviennent accessibles. Donc les gens, en fait, peuvent s'y balader. Et in fine, ils les rendent, ils les donnent aux États chiliens et argentins. Donc en fait, ces biens communs, ces propriétés privées, pardon, deviennent des biens communs. Et elles réappartiennent tout à coup à tout le monde.
À travers la notion des parcs nationaux.
À travers la notion des parcs nationaux, donc parc national, ça appartient à la nation. Ils ne sont plus propriétaires, ils les donnent. Tout, avec tous les infrastructures, tout l'investissement qu'ils ont fait. Évidemment, ils essayent d'avoir le meilleur niveau de garantie possible pour la pérennité des parcs. Pour eux, en fait, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont américains, ils ont une vision des parcs nationaux états-uniens. Et donc pour eux, c'est ce qu'ils disent, c'est le gold standard, quoi. C'est la mesure, le étalon, c'est l'or, quoi. Il n'y a pas plus, sur le long terme, sur le très long terme, il n'y a pas plus haut degré de protection. Donc c'est pour ça qu'ils créent des parcs. Et voilà, c'est de la philanthropie pure et dure, quoi. Il y a une forme de décolonisation aussi à voir là-dedans, que je trouve assez intéressante. Et le pari, c'est de dire que, en faisant ça, et surtout en le faisant avec les communautés locales, si demain, il y a un gouvernement déconnant qui décide de vouloir forer dans un parc ou vouloir aller à l'encontre...
Il y a la protection juridique du parc.
Il y a la protection juridique du parc, mais comme c'est un parc national, ça appartient à la nation, donc potentiellement, un gouvernement mal intentionné pourrait s'y intéresser. Et bien, en ayant créé des emplois, en ayant créé une culture, en ayant créé un sentiment d'appartenance autour de ces parcs, ce sont les gens qui vont se lever.
Qui vont le défendre.
Qui vont le défendre. C'est eux les gardiens, en fait.
J'avais lu qu'il y avait M. Franklin qui avait écrit un livre sur cette aventure qu'il avait appelé A Wild Idea.
Oui.
C'est-à-dire une idée sauvage.
Oui.
Et en fait, la philanthropie, c'est ça. C'est avoir une idée sauvage et la mettre en forme.
Ouais, alors j'ai lu ce livre qui est vachement bien, d'ailleurs.
C'est entièrement sur leur histoire, hein.
C'est la biographie de Douglas Tompkins, écrite par Jonathan Franklin. Elle n'est pas disponible en français encore. J'espère qu'un jour ça le sera.
Vous allez vous attaquer à la traduction.
Voilà. Mais donc ça raconte en effet une grande partie de son parcours et de cette idée. Donc je crois que dans la préface, il écrit à propos de Doug Tompkins parce qu'il était alpiniste, qu'il a passé la première moitié de sa vie à gravir une montagne et arrivé au sommet, il s'était rendu compte qu'il avait gravi la mauvaise. Et que du coup, c'est pour ça qu'après, il s'est dédié à la conservation de la nature.
Ouais. Ouais. Non, il a changé de paradigme.
Complètement.
J'aurais aimé aussi qu'on parle. Il y a un autre livre qui est le livre de Jepson et Blight qui dit qu'il faut réensauvager pour sauver la planète. Donc ça c'est quelqu'un qui a été en relation avec Tompkins ou c'est deux univers différents?
Probablement, j'ai pas l'info, je sais pas s'ils se sont rencontrés, je sais pas.
Parce que c'est vrai que maintenant c'est à la mode, mais à l'époque c'était complètement décalé un peu.
Ouais, complètement. En fait, c'est vraiment. Doug Tompkins, il a été très inspiré par un philosophe qui s'appelle Arnonès, qui lui a créé l'idée de ce qu'il appelle l'écologie profonde, qui est un mouvement en fait philosophique qui vient en opposition à ce que lui appelle l'écologie superficielle. Et l'écologie superficielle, pour lui, c'est le développement durable, c'est le fait de continuer à vivre comme on continue aujourd'hui, mais en faisant, en transformant, je sais pas, des voitures thermiques en voitures électriques ou en recyclant les déchets, etc. Pour lui, ça, c'est ce qu'il appelle de l'écologie superficielle. Et l'écologie profonde, c'est toutes les espèces, toute forme de vie a une valeur intrinsèque. C'est une façon vraiment différente de voir la vie. Et puisqu'on est à la montagne, il avait aussi cette image, Arnonès, qui lui aussi était alpiniste, il disait, par exemple, une avalanche, pour nous, c'est dangereux, c'est un risque, c'est un danger. Alors qu'au fond, une avalanche, c'est un spectacle formidable de la nature.
Ouais.
C'est un feu d'artifice de la nature.
Ouais.
Et en fait, c'est juste une autre façon de voir la vie, une autre façon de voir la nature. Et donc Doug Tompkins a été très inspiré par Arnonès, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, et par aussi d'autres personnes du mouvement Earth First, etc., donc les pionniers de l'écologie américaine, Rachel Carlson, etc. Et c'est ça qui l'a amené à cette idée de dire, mais oui, en fait c'est une évidence, il faut qu'on achète des propriétés, qu'on les réensauvage et qu'elles appartiennent à tout le monde.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont réussi, qui ont eu les moyens d'acheter autant de terres et de mener à terme leur projet.
Alors, il y a deux façons de voir les choses. Déjà, il y a beaucoup plus de riches aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, ça, en fait, c'est une fausse excuse. Hein. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, les milliardaires, il y en a énormément. Et donc, c'est une histoire de volonté. Et puis, c'est pas qu'une histoire de gros sous et qu'une histoire de millionnaires et de milliardaires. C'est aussi l'affaire de tous. Et c'est ça qui est beau aussi. Et en France, on le voit, il y a énormément d'initiatives individuelles qui sont en train d'émerger. Des initiatives associatives. Je peux citer en France l'ASPAS, par exemple, qui, sur ce principe, fait de l'acquisition foncière et met en place des territoires de libre évolution. Il y a le WWF France aussi qui agit. Il y a un énorme projet de rewilding ici dans les Alpes du Dauphiné qui s'appelle Rewilding France, qui fait partie d'un plus grand réseau qui s'appelle Rewilding Europe, donc qui consiste à créer, eux, ce qu'ils appellent, c'est pas des parcs nationaux comme les Tompkins, mais c'est des landscapes. Donc c'est des manières plus adaptées, en fait, et plus en lien avec nous, nos problématiques européennes locales, où en fait, le foncier est beaucoup plus morcelé.
Ouais. Plus à l'échelle de la France, quoi.
À l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la France, exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde peut agir. Qu'on ait de l'argent, qu'on soit propriétaire foncier, ou qu'on ait juste envie de s'y mettre et qu'on soutienne une association qui le fait, en fait.
Alors, on va faire une petite pause avant de parler plus en avant des projets français, avec un morceau qui fait partie de la BO de Rewilding Patagonia, que vous allez m'envoyer. Donc, vous allez m'en envoyer plusieurs. On va en passer un maintenant, puis on en passera un en finale de l'émission. De retour dans Focus avec Arnaud Hilsert. On n'en a pas parlé du tout. Vous avez collaboré pendant 4 ans, je crois, avec Yann Arthus Bertrand au sein de la fondation Good Planet. Donc vous étiez déjà dans le bon profil pour vous occuper du rewinding, en fait.
C'est ça, j'ai travaillé avec Yann Arthus Bertrand. Alors, je faisais du fundraising pour la fondation Good Planet, donc je n'avais pas du tout encore cette casquette, en tout cas. Ouais. J'avais pas encore créé ma société de production, je faisais pas encore de films, mais en tout cas j'étais très attiré par j'avais cette nécessité, ce besoin de contribuer à la cause environnementale. C'est quelque chose qui m'a sauté à la figure quand je faisais mes études de business en Australie, et je me suis dit oulala, mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Et en fait j'ai cherché des personnes qui m'inspiraient, des projets inspirants, et à cette époque Yann sortait son film Home, il avait son grand projet 6 milliards d'autres, qui est devenu maintenant Human. Donc en fait j'étais très attiré et très sensible, je pense, à l'impact de l'image. Comment est-ce qu'une photographie, comment est-ce qu'un film peut avoir un impact sur quelqu'un au point de lui transformer sa vie. Et comme il a eu cet effet sur moi, je pense que ça a infusé. Et puis derrière, j'essaye de le faire à ma manière. Donc je lui dois beaucoup.
Et oui, mais on se demande comment est-ce qu'on en vient à créer Into the Rewild, parce que c'est ce que vous avez fait ensuite.
C'est ça.
Donc vous avez mis en lumière des projets concrets pour rapprocher l'humain de la nature.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai d'abord créé une société de production.
Hello Emotion.
Hello Emotion, que j'ai créée avec Tancred Mellet, qui était un alpiniste et sportif de l'extrême, qui s'est malheureusement tué un an et demi après qu'on ait commencé à collaborer. Et puis, on a produit ce film juste après son décès qui s'appelle Surf the Line et qui a été ici projeté à la Cinémathèque et qui a eu d'ailleurs le grand prix des rencontres des montagnes de Gap.
C'était sur une ligne...
Ouais, c'est ça, avec le collectif des Flying Frenchies.
Ouais.
Et ils ont eu ce projet complètement à la fois génial et fou de tirer un câble de 1 km de long sur lequel on avait créé spécialement et fixé une planche de surf pour surfer dans le ciel.
Ouais.
En fait. C'est magique. Et donc, en fait, si vous voulez, moi, je viens de là. Je viens de ce parcours-là. De fil en aiguille, j'ai commencé à produire des films. Et puis, je suis tombé sur ce concept de rewilding un jour, au détour d'une lecture, en fait, tout simplement. C'est vraiment un article. C'était un article posthume, d'ailleurs, à Douglas Tompkins. Je ne connaissais pas cet homme. Il venait de mourir. Dans un accident de kayak, et je me suis dit... l'article parlait donc de ses exploits en alpinisme, d'aventure, etc., mais il parlait aussi de son engagement pour la préservation d'espaces naturels, la création de parcs nationaux, et le mot réensauvagement, rewilding, m'est apparu sous les yeux comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, je connais pas. J'ai travaillé avec Yann Arthus Bertrand, j'ai vu plein de gens... important dans le milieu de l'environnement, et pourtant lui je le connaissais pas.
Ouais.
Et le concept de rewilding je le connaissais pas, et je me suis mis à chercher, et c'est comme ça que de fil en aiguille je me suis dit, comment est-ce que je peux contribuer à ce mouvement. Je fais des films, donc pourquoi pas faire des films sur le sujet. Et on a fait un film, puis deux films autoproduits, d'abord des courts-métrages sur le sujet, et puis en fait ça a pris, c'est-à-dire que les films ont commencé à être diffusés en dehors de notre sphère, etc. Il y a des écoles qui nous ont appelés en nous disant, est-ce qu'on peut projeter un film sur la forêt primaire, on a besoin de ce genre de contenu. Et là on s'est dit, on va faire une asso. Et en fait cette asso aujourd'hui existe, elle s'appelle Into the Rewild, et elle porte, en fait, si vous voulez, les films qu'on fait sur le réensauvagement, qui sont des films à but non lucratif, d'intérêt général, qui sont gratuits, qui sont accessibles sur YouTube. Donc vous pouvez les suivre, vous pouvez vous abonner, vous pouvez les diffuser, vous pouvez les projeter, les revoir.
Oh, ça c'est magnifique. On laissera bien sûr en fin d'émission votre site.
Ouais, super.
On va en venir à la partie pratique. Comment s'est passée votre rencontre là-bas avec ce qui est déjà en place, qui a déjà été créé? Est-ce que vous avez été admis tout de suite comme cinéaste favori du Rewild?
En fait, ça a été un très long process. Moi, la difficulté que j'avais, c'est que j'étais intéressé par le sujet. Je découvre Douglas Tompkins, mais il vient de mourir. Les projets à l'époque où je découvre tout ça, il y avait peut-être déjà 14 parcs nationaux qui ont été créés, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai mis 2 ans à avoir les coordonnées de Christine Tompkins, donc la femme de Douglas, mais qui est très active et qui continue à travailler. Mmh. Et un jour, pendant le Covid... Je lui écris, j'avais réussi à trouver son mail par mon réseau, et elle me répond. Ça, c'était le côté génial du Covid, c'est que tout le monde devait être devant son ordinateur.
Ouais,
à
voilà.
Donc, elle me répond. Et elle m'invite à nous rencontrer après les confinements. Et donc, on s'est d'abord rencontrés en Allemagne. En fait, elle était de passage pour recevoir une récompense.
Ouais.
Et on s'est retrouvés dans un hôtel, dans la suite d'un hôtel. C'était pas sa suite, d'ailleurs, c'est l'hôtel qui m'avait prêté une suite à Francfort. Pour faire l'interview. Et à ce moment-là, c'était pas une interview, en fait, c'était un coup de cœur. Enfin, on s'est très bien entendu et c'était une rencontre formidable. Et à la fin de l'interview, elle nous dit, maintenant, il faut que vous veniez voir, quoi.
Mmh.
Et à partir de ce moment-là, on a eu toutes les portes ouvertes sur place, aussi bien côté Rewilding Chile que Rewilding Argentina. Et on a pu faire ce qu'on voulait, on a pu aller dans tous les parcs. Nous, notre itinéraire commence au Chili, dans le nord, à Puerto Varas, donc c'est un peu la porte d'entrée, le camp de base pour tous ceux qui veulent aller en Patagonie. L'idée par le Chili, c'est d'arriver vers Puerto Varas et puis ensuite de descendre au sud par la Carretera Austral, donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, tout au long de cette route, qui s'appelle la route des parcs maintenant, parce qu'elle relie 17 parcs nationaux, et ça, ça a été la dernière
création
de Doug Tompkins,
ouais.
Créer la route des parcs. C'est fantastique. Donc, ces graines de nombreux parcs nationaux qui ont été créés par eux, mais pas que. Il y en a que nombreux qui existaient déjà là-bas, parce que là-bas, ils ont une grande culture aussi
du respect de la nature.
Du respect de la nature. Et d'ailleurs, ils ont cette tradition présidentielle que chaque président, pendant son quinquennat, à l'issue de son quinquennat, crée un nouveau parc national.
Ah ouais.
Donc, ils s'inscrivent là-dedans. Ils ont ce truc-là. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé, nous, de parc en parc. Et à chaque parc, on a donc évidemment rencontré des personnes différentes, mais on a voulu mettre en lumière des actions différentes pour créer une histoire autour d'actions. Pas autour d'un problème à résoudre, pas autour de juste une belle histoire, mais vraiment de se dire concrètement comment ils agissent et comment est-ce que ces actions peuvent être dupliquées chez nous ou inspirantes. Enfin, quelle est la mise en place, quels sont les ingrédients, voilà, c'est ça, de la recette.
Quels sont le savoir-faire qui soit exportable.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu ça.
Il faut se dire que ça fait 30 ans qu'ils sont organisés pour créer des parcs, pour produire de la nature, on va dire. Alors, si on parle dans des termes
économiques. Ouais.
Voilà. Ils produisent de la nature, donc il y a des entreprises qui font des voitures, il y a des entreprises qui font des sacs à dos, et ben là-bas, il y a des fondations qui fabriquent des parcs.
Ok.
Et moi, je trouve ça génial. Donc, entre les premiers parcs, à une exception près, les premiers parcs ont été créés en 20 ans. Juste après, d'ailleurs, le décès de Douglas, Christine a accéléré les donations. Donc, ils ont entre les toutes premières initiatives et la création des premiers parcs, il s'est passé 20 ans. Aujourd'hui, Rewilding Chile, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à identifier des territoires. Entre le moment où ils identifient et le moment où ils créent des parcs, maintenant, c'est 3 ans. Donc, ça va très vite, en fait. Donc, ils ont une expérience extraordinaire. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller s'inspirer de comment est-ce qu'eux font pour pouvoir le montrer ici et pourquoi pas le faire chez nous. En tout cas, l'adapter d'une certaine manière chez nous.
Ouais, voilà. Ouais. Mais est-ce qu'eux-mêmes ont demandé la participation de scientifiques, je ne sais pas, d'humanistes, d'ethnologues ils ont travaillé en coopération.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement des programmes de recherche qui sont mis en place. Ils ont des scientifiques, ils ont des vétérinaires, ils font de la science, ils utilisent l'imagerie satellite. Donc, ils font vraiment tout ce travail-là. Ils travaillent aussi donc, dans les communautés avec des responsables de programmes. Alors, je ne sais pas s'ils sont sociologues ou je ne pourrais pas dire les qualifications, mais en tout cas, il y a vraiment un pilier science et un pilier communauté.
Ouais.
Ça, c'est clair et net, quoi. Et un pilier aussi économique qui est hyper important justement pour générer une forme d'économie autour de ces parcs qui en fait n'est pas du tout suffisante pour pouvoir dire que le parc devient rentable.
C'est oui,
pas du
couvrir tout ça, tous les frais. Ouais.
Non. Par contre, l'idée, c'est de dire, ils arrivent à couvrir avec le tourisme les frais engendrés par le tourisme, c'est-à-dire que ça coûte cher de créer et de gérer un hôtel. En fait, le tourisme arrive à faire en sorte que ce soit à coût ISO, coût zéro. Mais par contre, ça crée énormément d'emplois.
Ouais, ouais.
Et en fait, l'idée, c'est de changer de référentiel et de dire, on parle plus de dollars, on parle plus d'argent généré par ce territoire, mais on parle d'emplois créés.
Ouais,
et c'est de l'emploi local.
Ouais. Ouais, c'est sûr que d'un point de vue économique, ça satisfait les locaux et les gouvernements.
Voilà. Donc si on prend l'exemple de Patagonia Azul, qui est dans le film, le dernier parc qu'on va voir, qui est la création d'un parc, d'une aire marine protégée, où maintenant la pêche industrielle est interdite dans cette aire, évidemment que sur le marché du poisson, sur les marchés du trading d'espèces de poissons, ça génère moins d'argent, mais par contre localement, il y a beaucoup plus d'emplois qui ont été créés.
Et donc, c'est compensé.
Ouais. Bien sûr.
Ouais. Mais que faisaient les communautés? Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de communautés avant la création de ces parcs, avant la mise en place? Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient de la pêche, de l'artisanat?
Ouais, alors ça dépend de chaque parc, mais il y a des endroits comme le parc national Patagonia, au côté chilien, où c'était des énormes estancias, où il y avait, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 40 000 moutons. Donc une économie de gaucho, enfin de gens qui...
D'éleveurs,
D'éleveurs, donc sur des chevaux, qui étaient armés, avec des barrières, d'énormes troupeaux qui, d'une certaine manière aussi, endommageaient ces territoires. Et en fait, tous les personnels qui travaillaient dans ces espaces ont eu un nouveau job.
Ouais.
C'est-à-dire que il n'est pas question de mettre ces gens-là dehors et de leur dire bon maintenant c'est plus comme ça que ça se passe, mais plutôt de convertir en fait à des nouveaux emplois. Mmh. Et probablement que l'exemple le plus poignant, c'est de dire ceux qui chassaient le puma parce qu'il était nuisible au troupeau, un peu comme le loup chez nous, on va dire.
Maintenant, ils le protègent.
Maintenant, c'est des guides, parce qu'en fait, c'est eux qui le connaissent le mieux, finalement.
Ouais, bien sûr.
Et maintenant, c'est des guides, et ils vont amener des touristes pour les observer, et ils vont aider les scientifiques à les étudier, et ils vont faire les programmes de pose de collier GPS. Et ça, c'est pas que sur le puma, mais c'est sur plein d'autres espèces. Mais je trouve ça hyper emblématique de dire, avant, je le chassais, ouais. Et maintenant, je le protège. Et en fait, comme je l'observe, je l'aime d'autant plus que maintenant, c'est devenu même une emblème. Et ça passe évidemment par le fait que ce soit une source de revenus, etc. Mais c'est fantastique.
C'est l'exemple même de la sauvegarde de la nature réussie. C'est une réussite. Quoi.
C'est une réussite, oui. Évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments très difficiles. Au début, ça a été très controversé, ce que je disais au début de l'émission. Mais je veux dire, Doug Tompkins, il a été menacé de mort à plusieurs reprises. Il y a eu plein de choses, en fait. Ça a été dur d'y parvenir. Mais aujourd'hui, factuellement, avec 30 ans de recul, on peut dire que c'est une belle réussite.
Ouais, c'est une réussite. Ouais. Alors, on va faire une petite pause avec un deuxième morceau qui fait partie de la BO de Rewilding Patagonia. On écoute.
Aujourd'hui, factuellement, avec 30 ans de recul, on peut dire que c'est une belle réussite.
Oui, mais au départ, elle remettait en cause les traditions. Conduire les troupeaux immenses, ouais. C'est le propre de l'Argentine et du Chili. Ouais. Enfin, c'est la base de leur fonctionnement. Ouais.
Et c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est une affaire d'humain. C'est que enfin, il ne s'agit pas de polariser, de dire tout ce que vous faites là, c'est mauvais, ou tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est nul, on change tout. Mais je pense que c'est une approche beaucoup plus... Alors, évidemment, il faut avoir une vision claire et droite et aller vite. Mmh. Néanmoins, il y a quand même ce sens de vouloir impliquer tout le monde, de vouloir rassembler tout le monde. Parfois, pour certains, ça sera toujours trop rapide et toujours trop brusque. Néanmoins, c'est un changement de paradigme qui, et je l'ai vu de mes yeux, et je pense, et il y a sûrement aussi des contre-exemples, mais qui est quand même bénéfique, quoi. Clairement bénéfique, localement.
Ok. Un petit mot sur les Uelmus.
Les Uemul.
Je le prononce mal. Qu'est-ce que c'est, en fait?
C'est un cervidé, c'est un petit cerf andin. Enfin, il n'est pas tout petit, finalement, mais c'est un... Pour nous, en Europe, c'est un petit cerf andin qui est en péril d'extinction. Donc, à l'état sauvage, il en reste environ 1500. Parce qu'ils sont souvent accidentés de la route. Avant, ils étaient très chassés. Et en fait, ils sont tellement... comment dirais-je, curieux de nous, qu'on peut les approcher très près. Et donc du coup, c'est des proies faciles, en fait. Mais donc du coup, là, ils sont en train de mettre tout en place tout un programme pour sensibiliser à leur protection pour les sauvegarder. Et notamment, quand on y était, on a filmé la construction d'un centre de sauvegarde des Uemul. Et aujourd'hui, il a été inauguré, ce centre, parce qu'en fait... avec nos animaux domestiques, donc les chiens mais aussi le bétail, en fait il y a des bactéries qui passent sur les animaux sauvages, notamment le Uemul, et qui les menacent de mort. Donc s'ils arrivent à repérer des animaux malades, ils les voient sur leur peau, ils ont des sortes de grosses bosses, de grosses boules sur les flancs, et ben ils les capturent et ils les mettent en quarantaine dans ce centre, qui sont suivis par des vétérinaires, et ensuite ils les relâchent soignés dans la nature. Donc voilà, ils mettent en place tout un tas d'actions autour de ces animaux, et le Uemul est un animal très beau.
Et est-ce que ça a des grands bois? Est-ce que ça ressemble au caribou canadien?
Non, ils ont des bois, mais qui sont plutôt
petits.
Plutôt petits, ouais.
Donc c'est un peu ça s'approche plus du cerf de chez nous.
Ouais, avec des petits bois.
Ouais, voilà. Ouais. Et ils font le cérémonie du brame comme ici?
Eh ben, je sais pas, j'ai pas entendu, mais...
Parce qu'ici, c'est très coté, surtout dans le 05.
Ouais.
C'est très, très
recherché. Je sais pas si le Uemul brame, faudrait que je demande. Ça.
Ouais, voilà, il doit y avoir certainement une autre terminologie, il brame pas, il faut autre chose. Alors, c'est vrai que le temps passe. Un dernier mot sur le Rewilding France,
oui.
Qui serait sur les Alpes du Dauphiné. Donc, sans tout déflorer, est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de ce que ça pourrait être prochainement, à court terme, en fait?
Alors, j'invite tout le monde à aller sur le site, enfin, taper sur Google Rewilding France. Donc, c'est un des projets les plus ambitieux qui est en train d'être mis en place en ce moment en France. J'ai eu l'occasion d'aller sur place pour le voir. Le temps d'une journée, c'était assez rapide, mais néanmoins, c'était spectaculaire.
Et vous avez filmé en cachette, bien
non,
sûr.
Non, j'ai vraiment une rencontre amicale avec l'équipe qui est en place. Je ne veux pas dire de bêtises sur le projet, parce que je ne le connais pas suffisamment bien pour en parler. Donc, je vous invite à y aller. Néanmoins, voilà, c'est un projet qui est plein d'espoir. Ce que je peux faire, par contre, c'est vous parler du projet que nous, on est en train de mettre en place avec notre association.
Ah bah oui, avec plaisir.
Qui est un projet plus petit, mais... qu'on veut duplicable, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de rendre le rewilding accessible à tous. Et donc, on a acheté une prairie, une parcelle dans la vallée de Chamonix, très très belle. C'est une prairie de montagne qui fait 1000 mètres carrés. Enfin, c'est une prairie ouverte, mais nous, on a acheté dans cette prairie 1000 mètres carrés.
Ouais.
Ça paraît pas beaucoup, mais 1000 mètres carrés, c'est la taille moyenne d'une propriété en France. C'est-à-dire que... En moyenne, quand vous achetez une maison avec jardin, vous avez 1000 mètres carrés de jardin. Et donc, on est en train de mettre en place un projet qui veut être un projet pilote, duplicable partout et qui se repose sur trois piliers. Un, c'est une protection juridique. Deux, c'est des actions de rewilding. Et trois, c'est le fait de fédérer une communauté autour de ce projet. Donc, action juridique, on va signer ce qu'on appelle une obligation réelle environnementale, ORE. Qui est un contrat que n'importe quel propriétaire terrien peut signer chez le notaire. Qu'on soit particulier, entreprise, collectivité territoriale, association, si on est propriétaire foncier, on peut signer chez le notaire avec un co-contractant, avec une association comme le Conservatoire d'espaces naturels, comme le WWF France, comme le Parc national du coin. On peut aller chez le notaire et signer un contrat qui protège et qui donne des droits à la nature chez nous pendant une durée qui peut aller jusqu'à 99 ans.
Ah ouais, formidable.
Donc c'est, si vous voulez, l'équivalent d'une servitude. Vous donnez une servitude à la nature chez vous.
Ouais, ça engage à ce que la nature soit un acteur de votre espace.
Voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. et ça coûte rien. C'est juste de la volonté.
Ouais, ouais.
Et c'est beau parce que ça va au-delà de sa propre vie.
Ouais.
Et il y a une forme d'empouvoirment, c'est-à-dire que moi, citoyen, moi, propriétaire, le temps de mon passage sur Terre, eh ben, je peux décider que je protège la nature chez moi. Et en plus, il y a des gradients, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, selon que vous ayez un bout de forêt, nous c'est une prairie, mais vous n'êtes pas obligé de dire, bah, voilà, on ne touche plus à rien. Ça peut être de dire, bah, moi ma forêt, je veux qu'elle soit gérée de telle manière.
Ouais, ouais, ouais.
Ou, bah non, moi je veux carrément que ce soit de la libre évolution, donc là par contre, on ne touche à rien. Ou, bah, y a un mur dans lequel tous les ans nichent des hirondelles, et franchement, il ne faut jamais l'abattre, ce mur, donc je le protège. Donc si vous voulez, c'est ça. Le deuxième, c'est wilding, donc là, ça reprend toutes les actions qui sont possibles. En ce qui nous concerne, on a une prairie et on a des espèces exotiques envahissantes. Donc ça va surtout consister à les retirer, ces espèces, à faire de l'arrachage. Parce qu'elles font de la concurrence à des espèces endémiques.
Mmh.
Et c'est pas bon pour les pollinisateurs, c'est pas bon pour l'écosystème. Et donc ça va le rendre d'autant plus résilient si on les arrache pour que les espèces endémiques puissent recoloniser la prairie. Et le troisième point, c'est les communautés. Et donc l'idée, c'est de dire, bah voilà, chez nous, bah, on va mettre en place des arrachages, donc on va inviter des volontaires à venir arracher ensemble.
Mmh, mmh.
On va faire des inventaires de biodiversité, bah, on va faire de la science participative, où on va faire venir des écoles, où on va faire venir nos voisins pour faire des inventaires, compter des papillons. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de rassembler tout le monde. Et en plus, on va produire du contenu. On va faire des photos, on va faire des vidéos.
On va faire des films avec Arnaud Hitzer.
Exactement.
Par exemple.
Et donc, on pourra faire des projections et on pourra aller convaincre ailleurs. Et donc, l'idée, c'est d'essaimer, en fait.
Ouais. Non, c'est un beau projet, ouais. Et en fait, c'est pas très coûteux, puisque 1000 mètres, comme vous dites, c'est la surface d'une maison, enfin, autour d'une maison. Donc, c'est accessible.
C'est accessible. Si vous êtes propriétaire particulier, vous allez chez le notaire, en fait, le coût de l'acte, il est pris en charge par la personne avec qui vous signez, donc ça vous coûte rien. La mise en place de projets type pose de nichoirs, arrachage d'espèces, faire tomber des murs pour créer des passages à faune, des choses comme ça, ça coûte rien.
Ouais.
Donc non, en fait, c'est vraiment de la volonté, donc il n'y a plus d'excuses.
Ouais, ouais, ouais. Et vous, ce projet, c'est votre projet perso ou vous êtes associé avec d'autres amis ?
Donc c'est un projet. Donc on a acheté le terrain avec ma famille. C'était un terrain qui était menacé par un projet immobilier qu'on a attaqué au
tribunal.
On a réussi à racheter la parcelle. Donc là, on va la protéger. Donc c'est une acquisition personnelle, enfin familiale, on va dire. Mais finalement, peu importe à qui ça appartient, puisque derrière, on va donner des droits à la nature dessus. Et donc on signe une ORE avec le Conservatoire d'Espaces Naturels 74, donc il s'appelle Aster aussi, certains le connaîtront sous ce nom-là, qui va nous accompagner sur l'ORE, en fait, qui va être le garant de la bonne application de l'ORE sur toute sa durée, et puis aussi nous donner des conseils, un suivi technique, etc. Et puis nous, on va l'accompagner par notre association Into Zero Wild pour tout ce qui est la partie communauté, sensibilisation, etc. Chacun son métier. Nous, on n'est pas des techniciens, mais on est des passeurs et on veut montrer par l'exemple. Et c'est d'ailleurs l'idée de ce film Rewilding Patagonia, c'est de montrer par l'exemple que des choses sont possibles. Et aujourd'hui, il s'agit de passer à l'action, donc à nous les premiers d'y aller pour montrer que c'est faisable, quoi.
Ben, je crois que vous nous avez convaincus. Enfin, je pense que les auditeurs vont être sensibilisés. On a hâte du prochain film qui serait Rewilding Ilzeria.
Non.
Hein, carrément.
Non, mais par contre, oui, on est en train de faire un film sur les obligations environnementales pour démocratiser justement ce que c'est. En fait, c'est une loi qui a 10 ans en France, qui fête ses 10 ans cette année, 2026. Elle a été créée en 2016. Donc, elle est assez récente. Elle est peu connue. Et donc moi, quand j'ai découvert cette loi et quand j'ai commencé à questionner mon réseau et puis même des notaires, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas
connu.
Oui,
ils connaissaient rien. Ouais.
Je me suis dit, mais mince, c'est un outil qui est tellement puissant et tellement simple que la loi, elle fait 4 lignes dans le code de l'environnement et l'acte, il doit faire 6 pages. Enfin, c'est vraiment très simple. Et donc l'idée, c'est on est en train de faire un film, on est en train d'écrire un bouquin et on est en train de mettre en place un projet pilote pour dire, voilà, maintenant on peut y aller. Et rien qu'en en parlant, alors qu'on n'a même pas encore signé notre RE, même pas encore fait notre film et même pas fait notre livre, il y en a déjà deux autres qui ont été créés.
Ok.
Donc il suffit d'en parler, quoi. Il suffit d'essaimer, il suffit d'y croire.
Non, c'est génial. Et le projet pilote, vous lui avez donné un nom ?
Montagne Prairie.
Montagne Prairie. Pourquoi pas ?
À challenger.
Ok. Alors, on laisse votre site, c'est tout simple, c'est intothewild.org.
Into the rewild.
Into the rewild.org. On trouve tout, hein, tout ce dont on vient de parler.
Ouais, alors tout ce qui est le projet pilote, etc., c'est pas encore en ligne, mais ça va venir cette année. En tout cas, on trouve les films qu'on a fait jusqu'à présent. Vous pouvez vous abonner à nos newsletters. Et puis, on a une chaîne YouTube aussi. Et puis, un compte Instagram, évidemment. Mais sur le site, il y a tout.
Il y a tout.
Il y a accès à tout, là.
Bon, je crois qu'on a essayé de faire le tour de ce sujet qui est horriblement vaste, mais super intéressant. Donc, merci, Monsieur Hilzer, d'avoir créé et surtout plongé dans le Rewild. J'espère qu'il va enfin sortir du sauvage pour devenir la norme, ce qui est le but.
Merci. Et puis, je voudrais juste aussi dire que je n'ai pas fait le film tout seul, qu'on était avec Aurélie, qui est co-réalisatrice avec moi, qui est mon épouse. Et puis, on a au sein de l'association aussi un conseil scientifique, plus des personnes qui gèrent l'asso. Donc, je les salue. Et donc, ce n'est pas un film Arnaud Hilzer, c'est un film Into the Rewild.
Bon, cette humilité vous honore. Merci à vous.
Merci.
On va se quitter en laissant l'agenda des diffusions de Focus et Carnet de Voyage le mardi à 18h30 et le samedi à 10h30, ainsi que sur le site internet lapagedegilles.com, la page de Gilles tout attaché et Gilles GIL. À bientôt.